Saint Jacques nous dit, ne vous moquez jamais des démons, respectez-les, mais, comment dire, priez contre eux, mais même Saint Michel n'a pas insulté Lucifer. Il lui a dit, in peretibideu, c'est-à-dire que Dieu prenne son empire sur toi et te chasse quand Saint Michel a caché le corps de Moïse sur le mont Nebo pour que Lucifer ne le fasse pas adorer comme une idole par le peuple juif. Le corps de Moïse est actuellement quelque part sur le mont Nebo. Enfin, peut-être qu'il a été emporté ensuite ailleurs par les anges, mais Saint Michel a caché le corps de Moïse. C'est dans l'épître de Saint Jacques. Ce qui, comment dire, déphosphate les pauvres exégètes qui sont foudrages lorsqu'on dit que c'est vrai. Mais non, ça a été rajouté par un écrivain sacré, ivre mort, c'est ça. C'est pas... Ayant épuisé tous ses moyens de tentation, le démon quitta Jésus pour un temps. Pourquoi pour un temps? Parce qu'il va revenir à la passion. Et alors le film de Mel Gibson, qui a un grand défaut, c'est la flagellation. Le Christ a été flagellé par les boules de plomb attachées à des lanières de cuir. Et sur le Saint-Suaire, on compte jusqu'à 140 coups, alors que normalement c'était 40-1, la flagellation. Donc là, les soldats sont donnés à cœur joie. Mais on n'a aucune, sur le corps du Christ, on a la lanière de cuir, vous avez un liseré, et les deux coups de comme des petits haltères de plomb, hein, deux petites billes, et les deux coups qui frappent sur la peau. Mais il n'y a à aucun moment des ongles de fer. Qu'est-ce que c'était? Une lanière de cuir avec trois griffes en acier, en fer, et qui labourait le dos. Or, dans le film de Mel Gibson, il y a des ongles de fer. Et ça, c'est horrible, c'est américain, c'est australien, c'est tout ce que vous voulez. Et ça, c'est le démon qui a dû demander à Dieu, oui, alors il y aura pas mal de conversions avec ce film, je demande simplement que certains ne puissent pas se convertir à cause de cette scène, parce qu'ils ne la regarderont pas, ou que ça sera trop dur et tout. Je peux avoir mon petit millimètre, hein. Voilà. Parce que, à part cette scène qui est excessive, tout est impressionnant dans ce film. Surtout la présence de Lucifer. Parce que Lucifer est là, il dit, mais qui c'est? Parce que lui, vous voyez, il est comme nous. La divinité du Christ ne peut pas être une évidence. Donc lui, il a une foi douteuse, hein. Il fait des miracles de lui-même, tout ça, c'est au point de vue apologétique et probabilité, c'est quand même Dieu normalement. Mais il tourne autour, il comprend pas. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, mais quand ça se fait, il jeûne comme Moïse. C'est un prophète. Enfin, il a entendu les anges, hein, comme les bergers. Il est pas idiot, hein. Donc il dit, c'est le Messie. Et puis Lucifer, il connaît les Écritures. Et il sait bien qu'il y a un Messie, ça sera plus que le Messie. Quand Jésus dit au docteur de la loi, aux prêtres, aux sadducéens, aux pharisiens, pourquoi David, dans l'Esprit Saint, dans la lumière du Père et du Fils, dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, comment David dit à son descendant qu'il est son Seigneur? Ben eux, ils n'osent pas répondre, parce que ça voudrait dire que le descendant de David est plus qu'un roi. Mais Lucifer, lui, il répond tout de suite, hein. Il est le meilleur élève de la classe, il est très intelligent. Il lève la main, il dit, Dieu! Ouais, mais ça me défrise, vous voyez. Et défriser un ange, c'est difficile. Eh bien, voyez-vous, Lucifer, lui, il est là, il dit, si tu es le Fils de Dieu, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Et dans le film de Mel Gibson, La Passion de Mel Gibson, c'est extraordinaire. C'est très bien représenté. Il est là, il le regarde. Et on sent cet esprit, cette intelligence séraphique qui est là. C'est qui celui-là? Est-ce que c'est bien? Parce qu'il y a une tradition orale qui dit que l'épreuve des anges a été de voir l'incarnation. Que Dieu demande qu'il s'incline devant un homme qui a l'union de la nature humaine et de la nature divine. Mais ça, je vous en ai déjà parlé, je ne peux pas me répéter tout le temps. Donc Lucifer, il est là, mais c'est lui ou c'est pas lui? Comment? Mais alors s'il est véritablement un homme, ça va être affreux de mourir. En plus, je vais bien lui rappeler qu'il va mourir devant sa mère. Vous voyez? Mais Jésus n'a pas besoin de Lucifer pour anticiper toutes ses souffrances. Mais je pense que Lucifer a dû bien s'amuser à les lui rappeler, consciencieusement. En conscience, oui, ça c'est sûr que Lucifer pêche consciemment, très très consciemment. Le démon quitta Jésus pour un temps. Note B de la page 84. Lorsque vous avez vaincu le tentateur, ne vous enivrez point de votre victoire, mais préparez-vous à de nouveaux combats. Si le démon s'est éloigné de vous, ce n'est aussi que pour un temps, dit Saint Jean Chrysostome. Nous le verrons en effet plus tard auprès de Jésus, à l'heure, comme dit Jésus, de la puissance des ténèbres. Mais ce sera pour subir une défaite dont il ne se relèvera jamais. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Et donc, dans le film de Mel Gibson, tant pis si vous ne l'avez pas vu, à la fin, le Christ meurt. Et Lucifer, au milieu du désert, se rend compte qu'il n'aurait jamais dû pousser les hommes à le tuer. Et il explose de rage. Une rage épouvantable. Et l'actrice dont on a coupé les cheveux, avec un manteau, une bure étrange, noire, filandreuse, hurle, c'est trop tard. Il a fait tuer l'agneau de Dieu, et donc c'est fini. Les mérites infinis de l'agneau de Dieu vont pouvoir se diffuser sur le monde. Il n'aurait jamais dû le faire mourir. Du coup, nous retournons à Saint Jean, donc pas la page 84, donc c'est une petite merveille, c'est les quatre évangiles en un seul. Voici quel fut le témoignage de Jean quand les Juifs de Jérusalem lui envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui poser cette question. « Qui êtes-vous ? » Il déclara sans le nier et il déclara ouvertement « Je ne suis point le Christ, je ne suis pas le Messie. » Vous avez une secte qui existe encore, qui disent que Saint Jean-Baptiste est le tel Messie. « Qui donc êtes-vous ? » reprirent-ils. « Êtes-vous Élie ? » Ah, ça c'est pour me faire plaisir. Je ne le suis pas. Donc Élie n'est pas encore revenu. Êtes-vous le prophète? Non. Mais enfin, qui êtes-vous? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dites-vous de vous-même? Petit tas. Il est écrit qu'Élie devait précéder l'avènement du Christ. Or, Jean semblait être, aux yeux de tous, ce grand prophète revenu en ce monde. Il était en effet un autre Élie. Il en avait l'esprit et la vertu, comme le Sauveur le dira plus tard. Petit b, le prophète par excellence annoncé par Moïse, qui en fait n'était autre que le Messie. Vous voyez, les Juifs attendaient le Messie, descendant de David, le Christ, loin, le roi, celui qui reçoit l'onction de Dieu pour gouverner le peuple, le loin, le Christ. L'huile qui était versée par un prophète sur la tête du roi, le oint, voyez. Mireille a été ointe après son baptême, voilà, pour signifier que la Sainte Trinité habite certainement dans son âme, voyez. Eh bien, il y avait aussi l'annonce du prophète qui viendrait après lui par Moïse. Et c'est pour signifier justement que Jésus est à la fois roi d'Israël et donc le Messie, le Sauveur, temporel mais d'un temps spirituel, et prophète, et prêtre. Et vous voyez ? Et donc les Juifs attendaient le Messie, prophète. Mais est-ce que c'était distingué ou pas ? Enfin, eux, ils se posaient la question. Et voyez-vous, le fait qu'ils posent cette question, c'est extraordinaire. L'actualité au temps du Christ et l'attente. Alors, qu'est-ce qu'il répond, Saint Jean-Baptiste ? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. Jean-Baptiste, tout orgueil mis à part, toute vanité mise à part, dit « Eh bien, je suis l'accomplissement de la prophétie d'il y a 600 ans par Isaïe. » Voilà. Leçon au passage. Dieu peut attendre 600 ans pour accomplir une prophétie. Quand Jacob dit « Le sceptre ne sortira pas de ta tribu tant que ne viendra pas celui qui doit venir », Jacob dit que il y a le Sauveur qui va venir. Alors bien sûr, cette phrase est horrible à ceux qui nient tout surnaturel et toute prophétie, puisque Jacob, donc 1700 ans avant Jésus-Christ, dit « Quand le sceptre sortira de la tribu de Juda, le Messie viendra. » Et quand Jésus va naître, eh bien la descendance du roi David n'a plus le sceptre et s'est donné à Hérode, qui est un Iduméen et qui n'est plus de tribu de Juda. Eh bien là, Saint Jean-Baptiste, avec un culot monstre, dit « Eh bien, je suis l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. » Vous voyez, c'est une exégèse exacte. Il n'y a pas plus, qualifié que Saint Jean-Baptiste pour dire si Isaïe s'accomplit ou pas. Mais il dit, voilà, mais ce qu'annonçait Isaïe il y a 600 ans, eh ben c'est moi. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas rien, vous savez. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. Or, ceux qui avaient été envoyés appartenaient à la secte des pharisiens, ceux qui accomplissaient tous les rites, particulièrement ceux avec l'eau. Or, comme Saint Jean-Baptiste baptisait dans l'eau, ça les intéressait. Ils poursuivirent leur question. Pourquoi donc baptisez-vous d'un baptême nouveau, si vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean répond. Moi, je baptise dans l'eau. C'est encore un rite mosaïque. Mais au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui doit venir après moi. Et là, très belle inspiration de l'Esprit Saint. Bien qu'il existe avant moi. Alors qu'il est quand même de 6 mois l'aîné du Christ. En fait, Jésus est plus vieux que Saint Jean-Baptiste. Il est vieux de milliards d'années. Enfin, ça se compte pas, puisque si vous remontez, ça fait une éternité avant, une éternité après, donc c'est une éternité avant. Avant qu'Abraham fût, je suis. Eh bien, Saint Jean-Baptiste dit « Ah, bien qu'il existe avant moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure. » Ceci se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Béthanie, ici un village de la Transjordanie, après le Jourdain, à ne pas confondre avec Béthanie, la bourgade voisine de Jérusalem, où avaient Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe et Lazare avaient leur maison de famille. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui venait vers lui. Ecce agnus Dei. Ecce quitolit peccata mundi. Voici l'agneau de Dieu, s'écria-t-il, voici celui qui porte le péché du monde, qui efface le péché du monde. Cette phrase que nous disons à chaque messe, c'est la phrase de Saint Jean-Baptiste. Vous comprenez pourquoi Saint Jean-Baptiste est celui qui donne le patronage de la cathédrale du pape. Question piège. Quelle est l'église principale de Rome?
Saint Jean du Latran.
Oui. Ecclesia Ecclesiarum. voyez, la caput mundi, la tête du monde, c'est pas Saint-Pierre, c'est Saint-Jean du Latran. Étonnant, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est pas étonnant, c'est la grande piété qu'il y a pour Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Un des chanoines, et un des derniers, c'est Nicolas Sarkozy, chanoine laïque, Nicolas Hollande, pardon, François Hollande, ou comment dire, où François Sarkozy n'est pas allé prendre sa place. Il n'a pas pris la stalle. Donc il ne l'est pas. Ce qui est une bonne chose. C'est de lui que j'ai dit, hein, après moi vient un homme qui a été mis au-dessus de moi parce qu'il était avant que je sois. Là, c'est la traduction du chanoine Weber, hein, qui insiste sur la divinité du Christ. Je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il soit manifesté en Israël, car je suis venu baptiser dans l'eau. Jean redit encore ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel sous la forme d'une colombe et se reposer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser dans l'eau m'avait dit. Saint Jean-Baptiste révèle une locution intérieure ou une parole extérieure dite par Dieu. Un miracle. C'est difficile, hein, d'admettre tous les miracles de l'Évangile. Hein. Il y en a une quantité. Hein. Saint Jean-Baptiste est un apparitionniste. Sauf que c'est authentifié par la Sainte Église catholique. Et donc vous pouvez dire que Saint Jean-Baptiste a vraiment entendu une voix divine et qui lui a dit. L'homme sur lequel tu verras l'Esprit descendre et se reposer, et c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Or, je l'ai vu, et je témoigne qu'il est le Fils de Dieu. Page 87. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Voyant passer Jésus, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, se mirent à suivre Jésus. Donc selon saint Jean, vous voyez, il dit deux fois, il voit le Christ, il dit « voici l'agneau de Dieu ». Il le voit le lendemain, il dit « à nouveau, voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples, entendant parler ainsi, se mirent à suivre Jésus. Alors Jésus, s'étant retourné et les voyant à sa suite, il leur demande « que cherchez-vous » leur demanda-t-il. « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeurez-vous ? » ?»« Venez et voyez, » répondit Jésus. Ils allèrent donc et virent où ils demeuraient. Et ils restèrent avec lui ce jour-là, et il était environ la 10e heure, c'est-à-dire 4 heures de l'après-midi. On compte les heures à partir de 6 heures du matin. 6 heures du matin, c'est la première heure, je crois. La troisième heure, c'est 9 heures du matin. La sixième heure, c'est midi. Et donc, la 10e heure, c'est 4 heures de l'après-midi. Sauf que l'erreur de... André, frère de Simon-Pierre, marin-pêcheur, patron marin-pêcheur, était, parce qu'il avait des ouvriers sous son commandement, Simon-Pierre, était l'un des deux qui, sur le témoignage de Jean, s'était mis à suivre Jésus. L'un des deux. Donc on sait que un disciple de Saint Jean-Baptiste était André, mais pas son frère. Mais il appelle son frère et lui dit, parce que Jésus leur a parlé, et apparemment ça a été rapide et, vite, bien, et bien vite fait, il lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Et il l'amena à Jésus. Et là, dès la première rencontre, hein, ayant fixé sur lui son regard, tu es Simon, fils de Jonas. C'est Jonas, père et fils, marin pêcheur. Jonas, Simon et André, voilà. Tu es Simon, fils de Jonas, lui dit Jésus. Désormais, tu t'appelleras Képhas, c'est-à-dire Pierre. Et là, commentaire de Bossuet qui est L'immuable rocher sur lequel je bâtirai mon église, quand un dieu nomme, l'effet suit le nom. Sans doute il se fit en ce moment quelque chose en Saint-Pierre, mais qui n'est pas encore déclaré et qui se découvrira dans la suite. Le lendemain, Jésus, qui avait résolu de retourner en Galilée, rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, de la même ville qu'André et Pierre. Philippe rencontra Nathanaël. « Nous l'avons trouvé, lui dit-il, celui dont parle Moïse dans la loi et qu'annoncent les prophètes. C'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Et là, vous avez Nathanaël, de Nazareth. Encore, il lui aurait dit de Bethléem, là c'était la joie, c'était... Mais Nazareth, sur le coup, Nathanaël, c'est qui ce Nazareth ? De Nazareth, répondit Nathanaël, que peut-il en sortir de bon ? Enfin, c'est un village perdu. Hein. Si on vous dit, voyez, voilà, Henri V, le descendant de Louis XVII, de Trifouilly-les-Oies. Ah oui. Voici Louis XX de Madrid. Ouais, ça le fait mieux. Voici, je ne sais plus, pour les Orléans, il s'appelle comment le dernier Il s'appelle Jean, non? L'aîné. Voilà. De Rambouillet ou de E. Voilà. Ah oui, enfin, bon. Des blancs d'eux? Oui. Alors, eh bien ici, Nazareth, c'est un village du Nord. Ça dit rien à des gens qui vivent là. Viens et vois, reprit Philippe. Regardant Nathanaël qui arrivait, Jésus dit de lui, voici vraiment un Israélite, il n'y a en lui aucun artifice. C'est peut-être une des raisons pour laquelle Dieu a choisi ce peuple à la nuque raide. Parce que les vrais juifs, les vrais Israélites sont extrêmement précis. Vous voyez, un rabbin, il n'y a rien de plus tenace qu'un rabbin. Avant de lui faire perdre la foi, de lui faire dire que Dieu n'existe pas et que tout ça c'est l'évolution avec des poissons à moitié crevés sur le bord de mer, avec des branchies d'un côté et des poumons de l'autre. Heureusement que ce massacre n'existe plus et que l'évolution a continué. Que Monsieur Hazard et Madame Nature ont enfin écouté la SPA et ont arrêté de faire de la bouillie, parce que imaginez, tout ça se fait par transformation hasardeuse. Alors vous avez un ADN qui fait plic, il va, vous avez un œil sur au-dessus de l'oreille, voilà. Et tous ceux qui ont les yeux en face des trous ont survécu, forcément. Vous voyez, vous aviez les pieds sur le côté. Un bras sans main. Enfin, l'évolution a été très difficile au début puisque tout ça se fait par des tentatives au hasard et par la sélection naturelle. Donc tous les poissons à moitié branchies, à moitié poumons qui étaient là, ils crevaient tous. Et le poisson qui a réussissait à avoir deux poumons ou une manière de filtrer l'air impeccable en dehors de l'eau, lui, il sortait tranquille, iguane. Voilà. Des poissons, la génération d'avant, et clac, iguane après. Vous voyez, c'est un conte de fées pour grande personne, l'évolution, par hasard. Mais si Dieu transforme l'ADN et est maître d'une évolution mécanique, il lui faut une intelligence. Voici vraiment un Israélite, il n'y a en lui aucun artifice. C'est Dieu éternel et tout-puissant qui dit qu'un Israélite n'a pas d'artifice par don de naturel. Voyez. Donc les Allemands sont méthodiques et constants, les Japonais sont travailleurs et très obéissants, enfin, j'arrête les, comment dire, les idées reçues, mais bon. Jésus, lui, il dit, les Israélites n'ont pas d'artifice. Ils sont tenaces. C'est important. Vous ferez pas perdre la foi en la révélation mosaïque à un rabbin. Vous pouvez toujours y aller, vous n'y arriverez pas. Par contre, vous pourrez réussir à lui faire croire que Jésus était leur Messie à force. Parce que lui, eux, ils lisent la Bible sans arrêt. Et vous avez un vieux rabbin de 102, 104 ans, là, c'est, je vous l'ai déjà raconté l'histoire. Avant de mourir, il dit, je connais le nom du Messie. Il l'écrit dans une enveloppe. Il dit qu'on l'ouvre un an après sa mort. Tout est filmé, cacheté, dans un coffre et tout. Il y a plus de 100 000 personnes à son enterrement, 200 000 je crois, enfin c'est un truc incroyable, en Israël. Hein. Et un an après sa mort, ils sont tous là, on ouvre le coffre, on constate que les sceaux, c'est son écriture, c'est son papier, on sort le papier, et il y a une phrase rabbinique, le Seigneur, que le Seigneur te montre sa face, et que tu sois dans la lumière de... Hein. Et les premières lettres de chaque mot forme Yeshua. C'est-à-dire qu'il n'a pas osé dire de son vivant qu'il croyait que Jésus était le Messie, mais il l'a écrit, sinon je ne me ferai pas lyncher. Voilà. Mais voilà, c'est une histoire qui est vraie et qui est très impressionnante et qui a dû faire réfléchir beaucoup d'élèves de ce grand rabbin en Israël. Je ne sais plus. Et vous pouvez retrouver, c'est une histoire vraie. Et alors, Nathanaël dit, d'où me connaissez-vous ? Demanda celui-ci. Avant que Philippe t'appela, répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors, il y a une expression rabbinique qui dit que lorsqu'on étudie la Sainte Écriture, on est sous le figuier. C'est-à-dire qu'on est à l'ombre d'un arbre et qu'on lit paisiblement la Torah. Alors c'est peut-être ça. Hein. En tout cas, Nathanaël a peut-être eu une vision. Et Jésus lui dit qu'il est la vision. Saint Pidis, il y avait un prêtre progressiste, journaliste, polémiste... ultra-démocratique, il fallait faire la démocratie, voter à main levée tous les dogmes, l'autorité dans l'église, qui va dire la messe aujourd'hui, enfin, c'était pas tout à fait ça, mais ça commençait à l'être. Un abbé démocrate, comme on disait à l'époque. Eh bien, un jour qu'il travaillait, Saint Pidis est apparu dans son bureau et lui a fait des reproches. Il lui a dit de se convertir et qu'elle allait perdre la foi. Et Saint Pidis a dit ça. Donc, il a vu un homme en blanc avec la tête de Saint Pidis. Il s'est dit, alors là, ça, c'est extraordinaire. Non, j'ai vraiment de grosses scrupules d'imaginer que Saint Pidis en personne vienne me faire ses reproches d'être un abbé libéral. Alors, il prend l'avion. Non, hein, on est dans les années 1903-1914. Donc il prend une calèche, il prend le train, je sais pas, non, il n'y avait pas de train non plus. Enfin, s'il y avait un train, oui, bon. Il va à Rome et il demande une audience à Saint-Pédis. Il l'obtient. Il entre dans le bureau du pape, à l'audience, seul à seul, et Saint-Pédis lui dit, je vous ai déjà tout dit. Donc Saint-Pédis savait qu'il avait fait une bilocation. Il était apparu à ce prêtre. C'était une belle occasion consciente. Et il lui dit, je vous ai déjà tout dit. Donc lui, bon, c'était donc une belle occasion. Or, ceci est un miracle que je nie habituellement comme tous les exégètes du 19e siècle et comme tout bon prêtre progressiste et moderniste de l'époque. Eh bien, puisque les miracles existent, puisque je l'ai constaté et que je l'ai vécu, eh bien, je ne vais plus être moderniste. Et voilà. Et il s'est converti et il a abandonné toutes ses idées. Mais ça, c'est pas tous les jours, vous voyez, que Saint Pidis ou qu'un ange apparaît à un journaliste de la Croix. Hein. Sinon, vous voyez, les assomptionnistes du journal La Croix deviendraient catholiques.
Il a apparu à qui ?
C'est c'est un prêtre qui était très progressiste, très moderniste au début du siècle. Comment c'est une des Fioretti de Saint-Pédis. Je crois qu'on a son nom. Si vous faites une recherche Google, Saint-Pédis, prêtre libéral, prêtre libéral, bilocation, enfin vous pourrez retrouver le récit. Et lui a témoigné qu'il avait vu Saint-Pédis. Parce que ses copains lui ont dit, c'est pas possible, pourquoi tu n'es plus avec nous? Ben j'ai vu Saint-Pédis. Avec les encycliques Pascendi et tout ça, non mais c'est pas possible. C'est un affreux réactionnaire et tout. Ben oui, mais enfin quand même, le jour où vous serez à deux endroits en même temps, le corps d'un côté et l'âme de l'autre, si Dieu n'est pas avec vous, c'est que vous avez peut-être fait du bouddhisme tibétain et vous faites des voyages astro. Voilà. Je sais plus. Peut-être italien ou français, mais je pense italien, je pense. Mais ça se retrouve. Alors, Nathanaël avait dû avoir une vision. Et il a dû voir probablement la vision d'Ézéchiel. Je vis comme un fils d'homme resplendissant. Avant que Philippe t'appelât, répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, Rabbi, s'écria Nathanaël, vous êtes le Fils de Dieu. Vous êtes le roi d'Israël. Eh bien, figurez-vous que là, on pourrait sauter de ce passage jusqu'à la Passion. Parce que un juif ayant peut-être été peut-être en train de lire Ézéchiel ou Jérémie et qu'il voit cet homme et qu'il lui dit pendant que tu lisais ou si tu as eu cette vision c'était moi et je t'ai vu, il ne dit pas seulement qu'il est le Messie, mais oui, mais ça a été rajouté 200 ans plus tard parce que le Fils de Dieu, c'est trop évident, c'est trop tôt. Jésus lui-même ne savait pas qu'il était Dieu à ce moment-là. Vous comprenez, ça c'est du rajouti. Mais alors tout ça, c'est à la poubelle qu'il faut le mettre. Vous êtes le Fils de Dieu. C'est pas extraordinaire. Un véritable Israélite qui dit... Vous êtes le Fils de Dieu. Vous êtes Dieu. Et vous êtes le roi d'Israël. Ah là, c'est le côté quand même où tous les apôtres, à la fin, ils vont dire, bon, c'est bien, on peut pressentir quand même que le Seigneur a dit mon Seigneur, mais il est quand même le roi temporel du royaume d'Israël. Il va rétablir la royauté de David. Parce que même lorsque saint Thomas se met à genoux devant Jésus le dimanche après Pâques, 8 jours après la résurrection, il se met à genoux et qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas mon Seigneur est le Fils de Dieu, il dit mon Seigneur est mon Dieu. Alors les exégètes disent ça c'est typique, c'est au 19e siècle qu'on l'a rajouté, c'était une prière pour la grande élévation. Voilà. Monsieur l'exégète du 19e, c'était quand même dans des manuscrits avant le 19e. Ah bon, c'était, on les trouve où? Monseigneur mon Dieu, Signeticus, 5e siècle. Ah oui, mais alors déjà à l'époque, c'était un prêtre qui l'a rajouté pour la grande élévation. Voilà. Mais on n'en peut plus, vous voyez, de tous ceux qui veulent vider de son contenu la révélation. Mon Seigneur et mon Dieu, dit saint Thomas. Et ici, Nathanaël, avant même le premier miracle de Jésus, ou le premier miracle de Jésus pour Nathanaël, c'est une apparition. Vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le roi d'Israël. Mais le roi d'Israël, c'est parce que même après la résurrection, même après la reconnaissance de la divinité du Christ, eh bien, tu as blasphémé, dit le grand prêtre. Et vous verrez le Fils de l'homme sur les nuées du ciel, avec les anges autour de lui, monter et descendre. Et là, le grand prêtre se déchire les vêtements. Alors que tu es homme, tu te dis Dieu. Donc les apôtres, là, ils savent qu'il est Dieu. Mais ils ne le croient pas encore. Ils apprennent qu'il est Dieu, mais ils ne le croient pas encore. Saint Thomas le dit. Mais alors que Jésus est ressuscité, ils disent, ben alors maintenant tu vas rétablir le royaume d'Israël et moi je serai ministre de l'agriculture, puisque j'étais poissonnier. Hein. Moi je serai ministre de la culture, dit Saint Jean, parce que j'ai étudié à Jérusalem auprès de Gamaliel. Hein. Pauvre Judas Iscariote, non, il y en a un qui était le zélote, il aurait été le ministre de la guerre. Ils veulent encore le royaume temporel du Christ. Et ils disent, mais c'est encore plus extraordinaire, puisqu'en plus il est Dieu. Donc là, on va gagner toutes les batailles très facilement. Et le roi d'Israël. Jésus reprit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses encore. Et là, il ajouta. Donc ça veut dire que très tôt, hein, tout est dit. Hein. Et pourtant, hein, il faut 3 ans pour les apôtres, hein, pour assimiler ça. Il va dire la même phrase qu'il va dire au grand prêtre juste avant sa mort. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant au-dessus du Fils de l'homme. Il leur dit déjà qu'il est dans la divinité. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Alors. 3 jours après qu'ils eurent quitté les rives du Jourdain, donc il est accompagné déjà de 5-6 apôtres, hein. Et il est avec Jésus, avec sa maman. Donc ça veut dire que sa mère l'a accompagné au Jourdain. Donc ça veut dire que la Vierge Marie accompagne la mission de son fils après la mort de Saint Joseph. Marie n'est pas restée à Nazareth. Elle était là pour le baptême de son fils. Puisque c'est 3 jours après le Jourdain, donc elle n'est pas descendue de Nazareth à ce moment-là. Il se fit des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y était. Pourquoi? C'est Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11, qui précise cela. Voyez. C'est la Vierge Marie, co-rédemptrice, médiatrice de toute grâce. Par son Immaculée Conception, par l'incarnation et par sa prière. Et par sa présence au pied de la croix. Il se fit des noces à Cana en Galilée. Ce mariage est bien sûr le signe de l'incarnation. Jésus va constamment parler des noces du Fils, d'un roi, du maître de la vigne. Et l'Apocalypse nous parlera des noces de l'agneau. Donc ce mariage qui est authentique, c'est extraordinaire. C'est le mariage de Jésus avec la nature humaine. Voyez. Mais c'est un vrai mariage qui a eu lieu. Mais Dieu aime donner un signe pour ce qu'il fait de manière mystique. La mère de Jésus y était, nous dit Saint Jean chapitre 2 verset 1 à 11, puisque c'est lui qui a recueilli Marie. Ces détails-là, il l'a eu de la Vierge Marie. Il était apôtre, n'est-ce pas? Il était présent, oculaire. Il l'a reçu de la Vierge Marie. Le vin étant venu à manquer, la mère, alors Jésus fut également convié avec ses disciples. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que veut dire la Vierge Marie? Va acheter du vin, mon cher fils. Donc elle demande à Jésus un miracle, tout simplement. Au passage, c'est ce qu'on appelle une prière de simple exposition. On ne dit pas exactement ce qu'on veut, mais on fait deviner à Dieu. Femme, lui répondit-il. Il est le nouvel Adam et c'est la nouvelle Ève. Voyez, c'est la raison pour laquelle il faut évangéliser les musulmans qui sont dans une fausse religion. La femme est soumise totalement à l'homme. Elle n'est pas la nouvelle Ève. Donc, ils sont dans une fausse religion. Mais on n'a pas l'audace de le dire actuellement. On dit, Mahomet n'est pas un bon prophète, puisqu'il dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Voilà. Et vous avez un prêtre qui a dit ça au catéchisme, et son évêque l'a suspendu en Belgique. On n'ose plus évangéliser les musulmans. C'est bien dommage, c'est qu'on ne les aime pas. Parce que quand on a un trésor, si on le garde pour soi, c'est qu'on n'aime pas ceux à qui on pourrait le donner. Femme, lui répondit-il, que voulez-vous de moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il y a beaucoup de traductions. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Que voulez-vous de moi? En fait, de quel droit vous me demandez un miracle et de me révéler? Eh bien, parce que je suis la nouvelle Ève et que vous êtes le nouvel Adam. Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jésus ne lui a pas dit non. Il lui a dit, « De quel droit, ma chère mère, vous me demandez cela ?» Et la Vierge Marie n'a pas répondu. Et s'est adressée tout de suite au serviteur. Ça, c'est la rouerie féminine. Or, il y avait là 6 urnes de pierre disposées pour les purifications en usage parmi les Juifs et contenant chacune 2 ou 3 maîtrettes, 60 litres d'eau environ. Donc, ce n'est pas des jarres. Les serviteurs n'ont pas transporté des cuves de pierre de 60 litres jusqu'à Jésus. Voilà. C'est un peu difficile. « Emplissez d'eau ces urnes, dit Jésus, et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, reprit Jésus, et portez à l'ordonnateur du festin, le chambellan du festin. » Ils le firent. À peine eut-il goûté l'eau changée en vin, que ne sachant d'où venait ce vin, ce que ça fait bien les serviteurs qui avaient puisé l'eau, l'ordonnateur du festin appela l'époux. Mais qui est l'époux? Et à qui il dit ça? En fait, c'est à l'agneau de Dieu. C'est pour les noces de l'agneau qu'il dit ça. Le pauvre chambellan, le pauvre maître de cérémonie, c'est l'Esprit Saint qui lui fait dire ça pour le monde entier. Il est là, un festin de mariage, et il dit quelque chose qui illumine tout l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À sa mort, quand le bon Dieu lui a... Je suis sûr qu'il a sauvé son âme, celui-là, parce que ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte, il dit une phrase prophétique au dernier degré. Donc, il n'a pas plus d'années, ce n'est pas possible. Le bon Dieu n'a pas pu laisser cet homme entrer dans la liberté de la haine et de la méchanceté. Il doit actuellement jouir éternellement, avoir une belle médaille, n'est-ce pas, d'avoir été l'un des prophètes d'Israël pour une phrase. Mais quelle phrase? Tout le monde, dit-il à Dieu, dit-il à l'époux, à l'agneau de Dieu. Il s'adresse à Dieu, en fait. En latin, architriclinus, celui qui s'occupe des chambres où on s'allonge pour manger. Dieu. Tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les convives sont déjà en ébriété, on fait passer la qualité inférieure. Ça, c'est une traduction commentaire du chanoine Weber. C'est pas exactement l'hébreu ou le grec ou le latin. Vous, au contraire, vous avez gardé le bon vin jusqu'à ce moment. voyez, Dieu, face à la dureté de la nature humaine, d'abord, c'est le déluge, la tour de Babel, Abraham, Sodome et Gomorre, Moïse, la loi dans sa dureté, la lapidation. Et donc, c'est le vin amer, voyez. Alors que les hommes, ils sont malins, hein. D'abord, ils donnent un vin délicieux, liquoreux, et quand les gens sont paf, n'est-ce pas, ils peuvent, et que leur papille n'apprécie plus rien du tout, on leur donne du gros rouge qui tâche et ils le boivent sans problème. Mais Dieu n'agit pas comme ça. D'abord, il donne l'austérité parce que les hommes ont le cœur dur. Et ensuite, quand il les a assouplis, il leur donne le meilleur. Et il permet à tous les pécheurs d'espérer le salut. Voyez ? Tous les péchés, toutes les faiblesses humaines possibles et imaginables, les prostituées, les voleurs, les assassins, les débauchés, peuvent se sauver. Et là, saint Jean de commenter, ce fut là le premier des miracles de Jésus. Donc avant, il n'en avait pas fait. C'est simplement par sa sainteté qu'il attire ses cinq premiers disciples. Il l'opéra à Cana, en Galilée. Par là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il croit déjà qu'il est le Messie, le roi d'Israël. Mais vous voyez, cette foi, elle est commençante. Et là, ce miracle, il est très profond. Pourquoi il est très profond, ce miracle? C'est à la fois création des atomes du vin dans de l'eau. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut créer de la matière. Donc c'est un miracle de premier ordre. Et en même temps, pour ces hommes qui ont écouté la Sainte Écriture dans la synagogue toute leur vie, le symbole du vin, de l'allégresse et le symbole des noces est très important pour eux. Le cantique des cantiques résonne dans leurs oreilles. Et donc, c'est vraiment le Messie pour eux. Et ça ne va faire que grandir.
Tu as bien la crainte que vous dites le maître de
oui.
C'était quoi la croix d'abord?
Eh bien, c'est ça. D'habitude, tout le monde donne le bon vin au début pour que les gens qui ont encore du goût le trouvent agréable. Mais lorsqu'ils ont mangé et que leur goût est atténué, on leur donne du mauvais vin.
C'est lui qui dit ça.
Oui. Et il dit ça à l'époux. Et donc il dit ça à Dieu. Il dit, d'habitude, voilà ce que font les hommes. Mais vous, Dieu, vous réservez le meilleur vin pour la fin. Vous n'agissez pas comme les hommes qui sont trompeurs et qui sont, manœuvriers. Vous, vous tirez toujours vers le haut.
Et moi, je crois que c'était Jésus qui avait dit cette phrase.
Non, 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 c'est le maître du festin, mais qui est saisi par l'Esprit Saint pour dire ça à ce moment-là. Et ce qui est amusant, c'est qu'il ne le dit pas à Jésus, puisqu'il ne sait pas que c'est Jésus qui a fait le miracle. Mais il le dit à l'époux. Et l'époux symbolise le Christ à ce moment-là. Or, c'est un véritable époux. Et il est véritablement avec son épouse. Et donc, c'est une sanctification aussi du mariage. Et c'est la raison pour laquelle l'Église a toujours, tout en ayant en très grand honneur la chasteté, parce que la vie corporelle aura un temps et nous n'aurons plus d'enfants dans la vie éternelle, bien qu'ayant un corps, il n'y aura plus d'activité sexuelle légitime, nous serons plus spirituels que corporels, tout en ayant un corps pour singulariser notre âme et pour orner notre âme. Mais dans le temps terrestre, l'Église a toujours condamné les sectes spiritualistes qui condamnent le mariage et l'enfantement. Voyez ? Et les cathares, par exemple, était une hérésie manichéenne qui disait qu'il y avait un Dieu du bien, pur esprit, avec les anges, et un Dieu du mal qui avait fait la matière, les animaux, la création matérielle, et l'homme avec un corps animal, et qu'il piégeait des anges dans des corps d'animaux. Alors que, justement, il n'y a pas des esprits qui rentrent dans des corps. Dieu crée un esprit à chaque conception sexuelle humaine. Il crée un nouvel esprit à chaque fois. Il n'y a pas un ange qu'on met dans un corps. Ça aurait pu être éventuellement, mais non. Et donc, eux, dans leur hérésie, disaient « Un ange est prisonnier dans un corps animal. Donc, il ne faut pas se marier et il ne faut pas avoir d'enfant. » Donc, imaginez dans la région de Toulouse et de Béziers, cette secte qui était là, non seulement le roi de France a pris occasion pour s'amuser avec Toulouse, et Toulouse voulait avoir plus d'autonomie vis-à-vis du roi de France, et donc il y avait une raison aussi géopolitique, n'est-ce pas, à cette croisade. Mais religieusement, à bien y réfléchir, si vous étudiez le « que sais-je » sur les cathares, vous comprendrez que c'est une secte assez impressionnante qui interdisait le mariage, qui interdisait les enfants et qui prenait le suicide. On les présente comme des doux rêveurs pauvres et gentils, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai qu'il a fallu l'ordre de Saint-Dominique pour montrer la fausseté de leur pauvreté spirituelle auprès des gens. Mais c'était pas déjà d'ailleurs les plus pauvres qui entraient dans leur secte, c'était souvent des propriétaires terriens qui voulaient pas diviser leur propriété et qui voulaient pas d'enfants. C'était les premiers à être des cathares. C'était très amusant. Enfin bon, ce n'est pas notre sujet, et toutefois, voyez-vous, ici nous arrêtons là et nous voyons que notre Seigneur ici a presque déjà tout dit. Vous voyez.